Émile Bergerat, comte de Caliban, comte facétieux, Béjarec, le faiseur d'enfants. Vous rappelez-vous l'aventure de cette Américaine extravagante qui amena un jour ses deux filles à Victor Hugo pour que le grand poète daignât semer un peu de la graine de génie lyrique dans la race Yankee? Malgré les affirmations les plus positives, je n'avais jamais beaucoup cru à cette histoire paradoxale. Mais j'avoue que je suis très ébranlé depuis que je connais Béjarec, le faiseur d'enfants. Ian Béjarec a aujourd'hui 76 ans passés. Il n'exerce plus, mais pendant tant d'années, il a propagé l'espèce humaine dans nos villages. Comment vous expliquer cela, ô raffiné de la ville, dont tant de romans subtils et de comédies bourgeoises ont faussé la philosophie naturelle et dévoyé le sens moral? Magistrat de mon pays qui, en pleine crise de dépopulation, autorisez encore le mari infertile à tuer les amants de sa femme, et vous, prédicateur de la Seine, qui ne voulez pas voir que l'adultère naît le plus souvent qu'une reprise normale de la nature, souffrez que je vous présente ce vieux celte, Diane Béjarec, coq des poules qui n'en ont pas, et le plus honnête des hommes. Pour avoir le prétexte de lui laisser quelques monnaies dans la main, car il est pauvre, je lui fais quelquefois poser la barbe et les cheveux, qu'il a encore magnifiques. Par la surabondance pileuse, il ressemble au Jupiter olympien de Phidias, ce type indétrônable de la beauté mâle et le père de tous les dieux. Béjarec, à 30 ans, devait être prodigieux, et rien de ce qu'on en raconte ici ne m'étonne. Or, la nature, toujours inexorablement logique, avait doublé sa puissance attractive d'une vertu d'étalon qui en était l'expression même, si j'ose pénétrer ses mystères, et lui fatalisait sa destinée terrestre. Il était de toute éternité créé pour tenir tête au malthusianisme. Quant au reste, zéro, et le vieux Yann est plus bête encore que ce sont ses choux qui pomment. Qu'eût-il fait de l'esprit, le bon être, puisque c'est de nos attributs celui que la femme prise le moins? Béjarec fut d'abord marié. Son mariage même avait, sinon désuni, du moins séparé, deux sœurs jumelles qui s'adoraient et ne s'étaient point quittées une minute depuis leur enfance. L'une s'appelait Marie-Anne et l'autre Anne-Marie. Cette dernière se maria à son tour, et le sort voulut que, tandis que Marie-Anne moulait tous les 9 mois un petit ou une petite Béjarec, Anne-Marie demeura désastreusement stérile. C'est une grande douleur dans nos campagnes et une honte, et les paysans, quoique chrétiens, ont là-dessus des idées du plus pur paganisme. Et Marie-Anne se désolait du chagrin de la chère sœur Bréhaigne. Elle s'en ouvrit un soir à celui qu'elle appelait par badinage son « à tout coup », et de fil en aiguille, elle en vint à lui suggérer de s'en mêler un peu. Cela resterait en famille, elle n'était pas jalouse d'Anne-Marie. Peut-on l'être de sa chair même? Et puis elle en avait son compte, étant grosse du 11e, et vraiment, sa pauvre Bressonne était trop déshéritée avec son mari invalide. « Si tu veux, mon Yann, lui dit-elle, j'arrangerai la chose, et personne n'en saura rien que le bon Dieu et nous. »« Belle, dit gravement le bon brave Jacques, car il trouvait lui aussi sa belle-sœur fort malheureuse. » Marie-Anne s'y prit avec toute l'habileté que son affection fraternelle lui inspirait. Une bonne décoction de pavot endormit Anne-Marie, pendant une absence de son homoncule de mari, et 9 mois après, jour pour jour, Béjarec eut un neveu. Toute la famille était aux anges, et tel fut le premier essai que Yann fit de sa vocation génésie hors de son nid. Comment l'aventure transpira, voilà ce qu'il n'a jamais su, car certes, il n'était pas homme à révéler ce secret de famille, et c'était un cœur trop simple pour s'enorgueillir du service rendu. Peut-être sa femme ne put-elle dissimuler assez sa fierté. Toujours est-il qu'à quelque temps de là, un autre mari ridicule et sans progéniture le défia, au cabaret, entre quatre bolets, de renouveler l'exploit à son bénéfice. L'enjeu était d'une vache laitière. Béjaret, époux fidèle, demanda un jour pour réfléchir et consulta la brave Marie-Anne. Elle portait déjà son 12e. Cette considération, mise au point par l'appât de la vache laitière, décida de l'événement. Béjaret eut licence et gagna le pari. Cette fois, on en parla dans toute la contrée. On ne parla même tellement que, 8 jours après, une servante vint prier le faiseur d'enfants de vouloir bien se rendre au plus tôt chez une dame du bourg qui désirait lui parler. Il y alla, étant serviable comme pas un. Or, cette dame était en grand deuil d'un mari qu'elle venait d'enterrer. Elle conta à Béjaret que toute la fortune du défunt lui échappait parce que, mariée sous un régime qu'elle lui expliqua vainement, elle n'avait pas d'enfant de son époux. « La loi, lui dit-elle, m'accorde 10 mois encore pour en présenter un à notre notaire, voyant quoi je puis avoir comme tutrice tous les biens que je perds comme femme. » Et elle ajouta tristement, « Comptez sur ma reconnaissance. » Lorsque Yann eut enfin compris de quoi il s'agissait, il jugea inutile d'aller prendre avis de Marie-Anne. Il connaissait son cœur et le temps pressait. Séance tenante, il investit la veuve de l'héritage. Le petit présent qu'il reçut d'elle à cette occasion servit à acheter des souliers à sa marmaille régulière. Ce nouveau succès établit définitivement le renom prolifique d'Ivan Béjarec, car, outre qu'il flattait la haine que les terriens ont pour les chicanes de la loi, on se contait à l'oreille avec quel désintéressement rapide il avait sauvé la fortune de la veuve. Pendant quelque temps de ci, de là, dans nos villages, on vit, à la tombée du jour, apparaître et disparaître le beau celte aux longs cheveux ondulés, et les baptêmes foisonnaient dans les églises, comme autant en homérie les déclarations de naissance. Malthus n'emmenait pas large dans les troupeaux bénis du bon pasteur. Avant d'être emporté avant l'âge par son 14e, Marie-Anne, la généreuse commère, que la convention eut certainement honorée, présida encore à quelques belles cures opérées par le docteur Atoukou qu'elle aimait. Il guérit presque sous ses yeux de belles jeunes filles, victimes de la consanguinité de leurs parents et atteintes à leur puberté de ce mal d'hystéroépilepsie qui les rendait inépousables. Un riche fermier de la côte, qui n'avait que des enfants du sexe féminin et déplorait l'extinction de son nom, très honorable par défaut de lignée mâle, eut recours à ses bons offices et traita avec Yann à forfait. Béjaret lui donna satisfaction avec son infaillibilité ordinaire et réellement providentielle. Ce fut alors que Marie-Anne mourut, étrangement tuée par ce 14e enfant qui refusait de venir au monde, ne le trouvant pas assez vaste pour lui, et le faiseur demeura seul avec ses 13 autres, sans fortune ni métier pour les élever. Anne-Marie lui en prit 2, les 2 petits, par reconnaissance, mais ce fut tout, et les 11 autres alignaient des dentitions terribles. Le naïf et bon Béjaret, qui ne savait de ses 10 doigts rien faire, et dont l'instruction était aussi sommaire que son entendement même, vu que, sous ses cheveux splendides, le cervelet avait mangé la cervelle, eut une idée très belle et primitive. Comme de certaines gens particulièrement constitués découvrent des sources vives dans les terrains incultes avec la baguette de coudrier, il résolut de féconder, pour vivre, les jachères de la maternité française, et le projet conçu, il le mit tout de suite à l'œuvre avec courage. Il ne tarda pas, Dieu aidant, à se former une gentille clientèle, d'abord dans le département, puis aux alentours. On le voyait arriver sur les places des bourgades, toujours net, propre comme un sou, la barbe et les cheveux démêlés et poilés à miracle. Il tirait un accordéon, il jouait de son vieux La Marseillaise, le seul air qu'il ait su, et distribuait de petits papiers aux dames de la société. Il était bien rare, oh, mais bien rare, qu'il s'en alla sans gloire et sans argent. Sans doute, sa bonne commère de femme veillait sur lui du paradis. À présent, il est vieux, le beau celte, et n'exerce plus. Mais il a élevé ses 11 enfants d'honnêtes hommes. Tous sont casés, et les garçons et les filles, à droite, à gauche, il ne sait où, le cher ingrat. Et il me raconte, en posant, que, sur les routes où il se traîne en attendant l'heure de rejoindre sa bien-aimée femme, les gamins du pays lui jettent quelquefois des pierres. « Pauvre petit, ils savent pas !» dit-il.